On ne laisse pas bébé dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes de retour sur RKS et c'est toujours Ciné7. Nous sommes là pour le 10e épisode de Ciné7. On est toujours ensemble, on est toujours dimanche 19h comme chaque dimanche à 19h. Et vous l'avez entendu à ce petit son là, ce petit tonnerre, à ce petit rire. Ce soir c'est un spécial Halloween, nous sommes le 25 octobre. Dans un peu moins d'une semaine, on va pouvoir se faire peur et ce soir, on se prépare une playlist pour se faire peur tous ensemble et on se retrouve tous les trois comme d'habitude. Bonsoir.
Hello. Bon, bonsoir, moi je me suis mis dans le thème, je suis désolée, j'ai la voix cassée mais c'est pour faire un petit peu peur aux auditeurs.
Oui, parce que le rire diabolique, c'est Jade qui l'a fait, hein. C'était un doublage direct.
No montage,
pas de cut, rien du tout, aucun effet spécial, tout est fait à la voix dans cette émission. Même les musiques de films sont faites à la voix. Bref. Donc, ce soir, un thème Halloween. Pour se faire frissonner, pour se faire peur. On a quelques films d'horreur et des films qui nous font peur. Mais d'abord, un petit point d'histoire. Parce que, est-ce que vous connaissez l'origine de la fête d'Halloween? C'est toujours bien de remettre les choses un peu dans leur contexte.
Eh bien non, dis-nous.
Moi oui, je sais. Mais
toi,
vas-y.
Tu sais.
je me suis renseigné. Mais puisque Kéké est un peu plus histoire que moi, bah, je lui laisse la parole dessus.
Alors, l'histoire d'Halloween, bon, clairement, c'est une fête qui est très très vieille, qui a plus de 2500 ans, qui est une fête celto-gauloise. Donc, ça remonte à quelques années déjà. Il y a eu plusieurs autres influences, avec une influence par exemple romaine, avec la conquête. Mais après, en gros, ça a eu une forte importance au Royaume-Uni et surtout en Irlande. Et après, elle est partie aux États-Unis avec la fuite des Irlandais, enfin pas la fuite, mais l'immigration irlandaise au 19e siècle vers les États-Unis suite à la crise des patates. Donc en fait, le mot Halloween viendrait des termes anglais All Hallow Eve, qui signifie la veille de tous les saints. Et le terme celte viendrait de la fête de Samhain. Et ensuite, au XVIe, sous plusieurs papes, dont Grégoire III, tout ça a un peu évolué. Les fêtes païennes ont disparu pour donner naissance à nos fêtes de la Toussaint et aux commémorations. Donc au départ, ça a déjà été la fête de Samhain. C'était déjà ça, c'était une fête pour commémorer les morts. Et ça l'est toujours, en fait, plus ou moins. Et donc après, avec ces évolutions aux États-Unis, ça a pas mal bougé, et notamment avec la petite anecdote de Jack aux lanternes. Marvin, est-ce que tu la connais?
Alors, je sais juste que c'est une citrouille. Enfin, je crois que c'est un personnage un peu mythique, c'est une créature mythologique ou quelque chose comme ça, non?
Ouais, alors la légende dit qu'en fait, Jack était un ivrogne américain qui, la fête, le soir du 31, a défié le diable en lui jouant des tours, en lui faisant des farces. Et le diable, pour se venger, clairement l'a tué. Et en fait, Jack était en train de manger un navet. Et donc, en fait, sa lanterne, à la base, était un navet qu'il était en train de manger. Et il a mis sa bougie à l'intérieur pour pas qu'elle s'éteigne. Et en fait, cette légende-là viendrait de l'Europe, parce que les navets étaient utilisés au départ au Royaume-Uni. Et après, aux États-Unis, comme il y a moins de navets et que les citrouilles poussent plus et qu'elles sont plus faciles à décorer, à sculpter comme on le fait tous le soir du 31, et ben c'est devenu une citrouille. Et donc Jack aux lanternes maintenant est représenté soit avec une vraie lanterne, soit avec une citrouille. Et donc sa condamnation, c'était de errer sur terre avec sa lanterne. Donc voilà un peu l'histoire d'Halloween. Donc vous voyez, avec la légende de Jack, les farces et tout ça, les déguisements, le but des déguisements aussi viendrait du fait qu'on veuille faire peur aux esprits malfaisants, et ensuite on les chasse pour que le lendemain nous puissions célébrer tous nos saints et tous nos défunts.
on peut dire que c'est un peu le pays de l'oncle Sam qui a, on va dire, popularisé la fête d'Halloween.
Et bah oui, effectivement, et il l'a surtout popularisé avec des films dont on va parler, parce que les films de ce soir sont principalement américains. Et en fait, tout le principe d'Halloween qui fait peur, effrayant et tout ça, parce qu'à la base, c'est une fête qui est très festive et qui est très joyeuse, bah, tout ce Halloween effrayant et tout ça, et en fait, tout ce processus est né quasiment avec le film Halloween ou La Nuit des Masques de John Carpenter, qui a vraiment... fait basculer Halloween dans une autre dimension, avec une dimension aussi un peu plus commerciale, mais avec la dimension très effrayante, parce qu'à la base c'était pas vraiment ça. Donc c'est tout jeune en fait, ce phénomène.
Du coup on commence par ça.
Bah du coup oui, on peut.
Tu nous as trouvé une super musique.
Non mais en plus Halloween, enfin du coup le film s'appelle directement Halloween, donc je pense que ouais. C'est une bonne augure quoi.
Je pense que c'est le plus simple. Alors effectivement, je m'excuse, il y a eu un problème.
Disclaimer.
Ce n'est pas la vraie musique originale, mais par contre, vous allez reconnaître quand même le thème au piano qui va vous faire frissonner.
Je vous avoue, je lui ai passé un tabac juste avant. Parce que voilà, le thème d'Halloween, pour ceux qui le connaissent, il est mythique. Pour moi, il est mieux que l'exorciste, par exemple. On va en parler après, mais bon, bah, du coup, le remix, on va le mettre quand même. Mais voilà.
Écoutez, ça... on est en couvre-feu.
N'hésitez pas à aller voir directement.
Kélian a envie de danser, c'est pas grave. Mets-nous une ambiance boîte de nuit.
Voilà, on va... Le but, c'est de... préparer une playlist aussi, histoire qu'on se fasse peur, mais qu'on se fasse plaisir pour notre soirée. Donc,
elle est cool, vas-y.
Elle est quand voilà, même pas trop mal. Et donc, bah, c'est la première chanson d'aujourd'hui, c'est pour notre nouvelle émission Ciné 7 spécial Halloween. Vous êtes toujours sur RKS, à tout de suite.
Bon, du coup, c'était le remix d'Halloween, donc au cas où, voilà, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Donc, c'est un film de 1978, donc on dirait pas avec ce remix, mais voilà, comme je vous dis, le thème est beaucoup mieux. Donc, du coup, Halloween, une longue série de films qui a commencé en 1978 avec le premier film, La Nuit des Masques, réalisé par John Carpenter, qui nous a fait d'excellents films par la suite, donc qui est le film, on va dire, référence pour ce réalisateur-là, donc avec l'assassin Michael Myers. Qui est en fait ce film-là est le premier slasher movie. Donc un slasher movie, ça va être quoi? Ça va être une personne qui va dans une petite ville, qui va terroriser les habitants et qui va en fait tuer un par un les victimes, et que souvent le personnage principal, donc le méchant, est beaucoup plus fort que les antagonistes. Donc du coup, ça parle de quoi ce film? Donc ça se passe la nuit d'Halloween en 1963 pour commencer. Donc on a le jeune Michael Myers. Au cas où, petite anecdote, en VS, c'est pas Michael Myers, c'est Michel Meyer. Ouais. Donc,
Ça fait, et puis, on n'est pas le soir d'Halloween, on est la veille de la Toussaint.
La veille de la Toussaint. Donc, c'est moins classe en français, du coup, Michel Meyer.
Ouais, mais le titre est quand même plus classe en français.
Ouais, La Nuit des Masques, c'est joli en vrai.
Ouais, La Nuit des Masques, ça rend bien, moi, je trouve.
Donc, du coup, on a le jeune Michael Myers qui est dans sa chambre et qui va, en fait, assassiner sa jeune sœur. Sans trop de raisons valables. On ne sait pas par la suite pourquoi. Donc on comprend que déjà s'il y a, je crois qu'il a 6 ans dans la scène d'intro, on comprend déjà que je pense qu'il est un peu dératé dans sa tête. Et donc du coup après l'histoire se suit 15 ans plus tard. Michael Myers qui est dans un hôpital psychiatrique a un jugement. Et le psychiatre Dr Loomis va devoir l'escorter jusqu'au tribunal, et Michael Myers va s'évader. Et donc c'est là que que ça va commencer en fait un peu l'histoire du film. C'est qu'il va arriver dans la petite ville de Haddonfield, donc c'est c'est directement son village d'enfance où il y a du coup sa maison abandonnée, et il va se mettre en quête de tuer la personnage principale, donc interprétée par Jamie Lee Curtis, qui est Laurie Strode. Et Laurie Strode va devoir tout simplement être plus rusé que Michael Myers. Ça va être du coup le pitch principal. Et voilà. Est-ce que vos avis, les enfants?
J'ai bien aimé ce film. Pour l'anecdote, du coup, je viens d'apprendre que Jamie Lee Curtis, c'est la fille, en fait, de Janet Leigh, je crois qu'on va dire comme ça, qui est le personnage principal de Psychose, de Hitchcock. Sinon, pour le film, je l'ai trouvé sympa, hein, on va pas se mentir. Et tu dis que... En fait, il y a plusieurs scènes où il y a des relations sexuelles dans le film,
oui,
qui débouchent sur un meurtre.
Ouais.
On en parlera un peu plus tard dans Scream. À mon avis, ça a quand même un gros rapport avec toute cette Amérique puritaine où on dit il faut à tout prix être vierge dans un film d'horreur, sinon tu clames. Ça se vérifie dans ce film.
Ouais, moi, c'est ce que j'avais remarqué aussi, c'est que toutes les personnes qui meurent sont souvent torse nu ou plus ou moins dénudées. Et je me suis demandé si c'était juste vraiment un effet réfléchi, ou juste vu que c'est un film qui s'adresse plus aux ados, on les met à moitié à poil. Et
alors ça, en fait, il y a une théorie qui est que le spectateur s'identifie moins aux personnes à l'écran qui ont l'air d'être de mener une vie de débauche, en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour le réalisateur de tuer ces personnages-là parce qu'il n'y a pas d'attache auprès du public. Donc souvent c'est pour ça.
Moi, mon interprétation pour ça, du coup, pourquoi Michael Myers va en fait tuer souvent des personnes dénudées, c'est pas dit. Enfin, en tout cas, j'ai pas trop trouvé de recherche là-dessus. Mais moi, je pense que potentiellement Michael Myers a été violé dans son enfance et que c'est pour ça qu'il a gardé un traumatisme et que derrière, en fait, il est un peu foufou. Donc c'est pas pour dénoncer que c'est pas de sa faute et tout. Évidemment, c'est de sa faute. Il est un peu taré, le gars. Mais potentiellement, il a peut-être été violé avant, et le fait de voir sa sœur se faire sauter par un autre, peut-être que ça va le
Kélian est outré.
Le tiquer un peu. Désolé, ouais, j'ai trouvé que ce mot-là. Désolé. C'est Halloween, c'est bon.
Ouais.
J'ai trouvé que ce mot-là, et du coup, peut-être potentiellement, ça vient d'ici. Et d'ailleurs, ce qui est important, et que ça je ne savais pas, et que c'est en m'informant un petit peu, parce que j'ai pas vu les suites d'Halloween qui sont un peu moins bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce film-là était prévu d'abord comme un seul film, puis en fait il a tellement bien marché qu'ils l'ont fait revenir, Michael Myers, pour un 2, et à la fin du 2, du coup, on a un numéro 3, mais le numéro 3 n'a rien à voir avec l'histoire de Michael Myers, et ça, du coup, le public l'a vu, et le public n'a pas apprécié, et ils l'ont fait revenir pour des suites plus ou moins mauvaise. Très clairement, c'est des films, après ça va être plutôt des séries B, ça va ressembler à des séries B. Ça fait un peu comme Vendredi 13, quoi. Le souci avec les films d'horreur, c'est qu'en fait ils ont tiré trop long, ils ont tiré sur beaucoup trop de suites de films. Il y en a je sais pas combien pour Halloween, je crois qu'il y en a au moins presque une dizaine.
Ouais, c'est sûr.
C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et au cas où, petite anecdote pour Halloween, il faut savoir que le masque, donc le fameux masque d'Halloween, est inspiré d'un acteur qui joue dans Star Trek. Je crois que c'est le Captain Kirk, je crois.
Ah, parce que moi, clairement, il me faisait plus penser au méchant dans les Goonies que...
Le méchant dans les... Bon, c'est pas pareil, hein, mais oui, en fait... J'avais regardé en fait parce que ce masque en fait, ce qui est marrant c'est qu'il a pas de, on dirait qu'il a pas de visage, enfin c'est pas vraiment, ouais. Il fait pas très humain ce masque là.
C'est pas Spock.
Non, c'est pas Spock.
Non, putain. Pas
mais
Spock.
C'est un Star Trek, mais il date, hein, le Star Trek. Hein. Moi je suis plus de la génération des nouveaux Star Trek faits par J.J. Abrams, donc j'aurais plus trop le nom en tête. Faut peut-être que je le recherche un petit peu après, mais voilà, c'est un personnage que du coup qui en fait n'était pas au courant que ce film-là, en fait, il avait pris comme modèle son visage et en fait, il avait dit qu'il était très honoré justement de faire partie un peu du film sans le vouloir. Donc, c'est une petite anecdote à placer. C'est cool.
Ouais, c'est sympa. Il y a pas mal d'autres gens qui ont inspiré des masques ou des personnages dans des dessins animés ou dans des films. Je pense notamment à Tom Cruise.
Pour Aladdin.
Pour Aladdin.
Ouais.
Mais oui, ça, après, c'est de belles anecdotes. Et puis, pour revenir sur le slasher, aussi peut-être parce que c'était un genre nouveau. Enfin... On se rend bien compte, déjà, Michael Myers n'a pas de visage. On le voit très peu, son vrai visage.
On va dire que ça entretient le mystère.
Voilà, déjà. Et puis en plus, on a presque l'impression qu'il n'a pas d'âme, pas de conscience. Il est livide. En fait,
Ça, ils font bien exprès de nous le faire comprendre, ouais, avec la scène, notamment avec le chien. Mm. Parce que le réalisateur ne voulait pas en fait, que le public puisse s'identifier à ce, ouais, personnage.
En fait, parce que clairement, dans le film, il est vide, quoi. Il tue, mais en fait... On ne sait même pas s'il a conscience de tuer. On ne sait pas s'il y a une raison ou si c'est juste un fou.
En tout cas, il a un goût pour la mise en scène. Parce que par exemple, c'est dur de ne pas spoiler un film d'horreur, ouais, quand même.
Mais parce qu'on sait que ça va mourir, quoi. On sait qu'il
y a des scènes où il y a deux personnages qui meurent successivement. Et il les tue à certains endroits de la pièce. Et ensuite, quand Laurie Strode arrive dans la maison, il a mis en scène les, mm-hmm, corps. Il y en a un qui tombe de derrière une porte. Il y en a un qui est dans un placard. Enfin, il y a une volonté quand même de faire peur, ouais, et de créer une atmosphère.
Ça fait très Train Fantôme, cette scène.
Bah, déjà, il est assez intelligent dans le sens où il va commettre ses meurtres le soir d'Halloween. Donc, en fait, tout le monde est déguisé. Donc, du coup, comment reconnaître le tueur? C'est ça le souci. C'est qu'en fait, ils sont tous masqués, les gars.
Ouais, mais est-ce qu'il a vraiment conscience que ce soit le soir d'Halloween? Parce qu'il s'est quand même évadé par...
Peut-être par opportunité, quoi. Les citrouilles.
Ouais, quand même. Après, il y a un truc qui m'a fait tiquer dans ce film. Je sais pas si c'est voulu par le réalisateur, mais c'est que, alors, il a été emprisonné à 6 ans. Il a été condamné à 6 ans, puis 15 ans plus tard, il revient. Donc, il a 21 ans lors des événements, oui, d'Halloween. Il conduit une voiture. Comment ça se fait?
Aux États-Unis, à 21 ans, t'as le droit de conduire.
Ouais, mais le gars de 6 ans à 21 ans, il était en prison.
Et ils disent qu'ils savent pas conduire. Qu'il sait pas conduire, pardon.
Bah putain, il a pris vite, hein. Bah, franchement,
en 5 minutes, quand il s'échappe, comme il a pu s'échapper, il a pas le permis, bah, et quelqu'un dit, bah, il avait l'air de bien savoir conduire pourtant.
Bah ouais, c'est sûr.
Peut-être qu'il a joué aux cartes.
Ouais, ouais.
Bon, il a peut-être appris à conduire très très jeune avec son papa. Ouais. On l'a tous fait, non?
Peut-être. Et autre chose que j'avais remarqué par contre sur lui, c'est que il me semble, si je dis pas de bêtises, il tue toujours masqué. Parce que déjà le premier meurtre, on le voit monter les escaliers et prendre un masque pour pouvoir tuer sa sœur.
Alors moi je pense que c'est justement pour pas dissimuler peut-être ses faiblesses, ouais, peut-être qu'il sera, comment dire, le fait de voir une victime peut-être en train de lui supplier de pas mourir, peut-être que ça va peut-être un peu le toucher, et que le fait qu'en fait quand il va mettre son masque, ça va peut-être un peu enlever toute son humanité, justement faire ressortir sa monstruosité. Je pense que c'est voulu, et le fait surtout, bah, c'est pour le spectateur. Moi je pense qu'en fait on n'arrive pas à s'identifier à un personnage qui est masqué, on sait pas à quoi il ressemble, et en fait, bah, comme je t'ai dit, ça entretient un mystère autour du personnage, un mythe un peu.
Ouais, puis après la manière dont c'est filmé aussi, on le voit très peu aussi, même masqué on le voit très peu, souvent c'est aussi souvent filmé en caméra embarquée, on a l'impression que on le voit à travers ses yeux.
On entend beaucoup sa respiration, par, ouais, contre. Il y a, surtout à la fin, on entend beaucoup, en fait, comme s'il voudrait un peu nous hanter, quoi.
Ouais, c'est ça.
La scène, bon, en fait, quand il y a le générique de fin, il va encore avoir sa respiration, comme si, voilà, il est toujours là.
Ouais.
C'est pour ça qu'il y a une suite, d'ailleurs.
Oui, bah, oui, bah, bien sûr. De toute façon, il disparaît à la fin. Donc,
en tout, ouais, cas, il y a un truc qui est crucial avec tous ces films que j'ai eu un peu de mal à faire parfois, c'est vraiment de remettre dans le contexte, comme dirait Marvin, de... Bah, ce film, il est sorti en 78. Ça fait quand même plus de 40 ans et il a vieilli, bon, bah, plus ou moins.
Il y a des scènes qui ont mal vieilli, c'est clair.
Plus ou moins mal, mais en tout cas, il y a une belle photographie, notamment la scène où Laurie Strode, elle vient de... Enfin, elle pense qu'elle vient de le tuer, où elle est au premier plan et où on le voit se relever doucement à l'arrière-plan. Et là, nous, bon, on en a vu des films d'horreur, c'est quelque chose, on est habitué, on est un peu désensibilisé. Mais à l'époque, on peut être sûr que dans le cinéma, ils ont tous crié.
Ouais, ouais, mais c'est clair.
Et aussi, moi, si je peux mettre un petit, une petite note positive, c'est pour la musique. Donc, pas forcément le thème, mais surtout, en fait, y a toujours en fait, une musique permanente. Et quand la musique est là, elle nous indique qu'il faut avoir peur pour le personnage. Elle joue un rôle super, super important dans ce film-là, la musique. Ça va être des petits bruits, mais en fait, qui vont être super importants. Et d'ailleurs, bah, le thème d'Halloween et justement les effets d'Halloween, en fait, ils sont super connus dans ce film-là, justement, pour ça. Et c'est un peu lui qui a instauré après. Bah, de toute façon, oui, c'est le premier slasher movie. C'est lui après qui a ouvert aux Griffes de la Nuit, Vendredi 13, La Colline à des Yeux, enfin, un peu tous les slasher movies comme ça. Mm-hmm. Ça a été le premier. Et pour moi, c'est une réussite. Pour moi, ce film, même si voilà, il a mal vieilli, comme l'a dit Jade, enfin, il a pris un coup de vieux sur certains, à certains aspects, mais il reste, ça en dénote pas que c'est un super film, quoi.
Ouais, et puis c'est le film qui a ouvert la voie un peu au film d'horreur d'Halloween et qui a rajouté, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a rajouté l'horreur à la fête d'Halloween, l'horreur et la terreur. Oui, Jade.
Sachant également que le film a coûté 300 000 dollars pour la production. Et qu'il a rapporté, j'ai plus les chiffres en tête, mais plusieurs millions, il me semble.
Donc c'est un gros succès.
Et en fait, c'est vrai que les films d'horreur, c'est hyper lucratif, j'ai envie de dire. Parce que souvent, c'est des très petits budgets, pour en tout cas les films d'horreur d'époque, mm-hmm. qui rapportent énormément, parce que les gens se précipitent en salle pour les voir. Et c'est quelque chose qu'on va notamment retrouver dans le projet Blair Witch, dont on va parler dans très peu de temps. Mais en tout cas, des films qui n'ont pas besoin de gros moyens pour faire vraiment peur, et qui rapportent énormément. Donc,
oui. Moi, oui, ouais, vas-y, Marvin.
J'ai une dernière chose à dire sur Halloween. C'est du coup, Kéane, quand t'as dit qu'il y avait beaucoup de plans en vue, du coup, comme si on était le tueur, mm-hmm. je pense que c'est super intéressant, du coup, parce que personne souhaite, enfin, aucun spectateur souhaite être à la place du tueur, justement. Le fait qu'en fait, on a l'impression qu'on va pas pouvoir, échapper à ce meurtre, comme si c'est un peu nous qui l'avons tué.
Ouais.
Derrière, on prend parti, on est totalement dans la peau du personnage et on va prendre parti pour lui, alors qu'en fait, bah, personne veut être dans la peau d'un tueur.
C'est sûr.
C'est malsain. Donc voilà. Après, il y a pas mal de scènes qui sont intéressantes, comme moi, je pense à la scène où il va tuer un personnage, donc je vais pas dire lequel, mais bon, de toute façon, il va tuer plein de personnages dans ce film. Il va contempler sa victime, il va avoir zéro son. Genre. Voilà, comme ça. Et en fait, il va contempler comme un peu une œuvre d'art. Genre, c'est un peu malsain dans le sens où il y a aucun bruit et il va la contempler pendant de longues secondes. Et c'est long sans bruit. Sans bruit, c'est hyper long.
C'est sûr.
Et bah, ça montre en fait qu'il est totalement conscient de ce qu'il fait et en fait, il aime bien ce qu'il fait.
Ouais.
Michael Myers aime beaucoup.
Mm. Et donc, Jade parlait de Blair Witch, on va en parler tout de suite. C'est un film qui apporte un nouveau genre aussi aux films d'horreur et aux films de terreur. C'est des films. Type caméra embarquée.
Ça s'appelle found footage.
Ok, j'avais pas le terme anglais, mais très bien, je suis preneur. Donc pour résumer rapidement le projet Blair Witch, c'est trois amis qui partent dans une forêt au nord d'un petit village britannique, non américain. Et en fait ils partent dans cette forêt, pourquoi ? Pas juste pour aller chercher des champignons, mais... parce qu'ils ont entendu parler d'une légende, d'une mystérieuse sorcière de disparition. Et là, c'est deux garçons et une fille, et la femme cherche à faire un reportage sur la sorcière de Blair. Donc Blair, c'est le nom de la forêt, si je ne me trompe pas. Et tout le film est filmé en caméra embarquée, et en fait, on a les rushs de ce qu'ils ont filmé. Et ça dure une heure et demie comme ça, et c'est long.
C'est en vrai. Alors au début, c'est moi qui l'ai conseillé un peu à Kéliane et à Jade. Je leur ai dit que voilà, c'était une référence dans le found footage. Moi, je l'avais pas vu à ce moment-là, donc je lui dis bon bah écoute, c'est une référence. Apparemment, il fait assez flipper, donc je lui dis bon, on va le regarder. Je crois qu'on s'est jamais autant ennuyé. Soit on est passé à côté de quelque chose, ce qui est possible. Hein.
Ouais, on a quand même regardé Midsommar la semaine dernière. Hein,
donc... Ouais, non, je mais là, qu'on était d'accord. Là, moi, ce film, il m'a anéanti dans le sens où vraiment, genre, je regarderai plus jamais.
Il t'a barbé.
Il m'a barbé, voilà. Il m'a barbé. Enfin, il y avait juste, à la rigueur, en fait, c'était hyper frustrant parce que des fois, je m'attendais à des scènes, genre, je pense notamment à la scène où je me rappelle plus, l'actrice principale, elle va se filmer avec le flash et il va y avoir derrière un noir derrière elle, donc du coup, la forêt.
C'est l'affiche d'ailleurs du film.
Ouais, et je me dis, putain, il va y avoir tout ce qui va sauter. Ouais. Il va y avoir la sorcière et tout. Il se passe rien.
Mais même chose quand ils sont dans la tente aussi.
Non, c'est pas du génie, je suis désolé.
Non, c'est pas du génie.
Non, c'est horrible. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le deuxième film le plus lucratif de l'histoire parce qu'il a coûté 60 000 dollars. Il a rapporté plus de 350 millions.
Si tu veux, demain on part.
Mais on le fait nous. On le fait nous.
On prend une caméra, on filme des galets.
On a le cast parfait en plus.
On prend une caméra, on filme des galets pendant une heure. Moi, je le fais.
Par contre, on peut quand même. saluer le fait que ça soit presque quasi de l'improvisation. Ils avaient, on va dire, des grandes lignes de texte, ce qu'il fallait faire ou dire. Mais après, c'était vraiment tous les dialogues, c'était de l'improvisation. Et on sent que voilà, ça, bah, c'est super lisse, ça passe super bien. Par contre, même si voilà, il se passe rien dans ce film, bah, c'est quand même intéressant de les suivre jusqu'au bout. Voilà quoi. Mais après, il y a une scène aussi qui m'a. Dans ce film que j'ai beaucoup aimé, mais en fait c'est autour du mythe de ce film là c'est lors des témoignages d'un peu qu'est-ce que c'est la sorcière de Blair et le village, est-ce qu'il est hanté, la forêt, est-ce qu'elle est hantée. Il va voir une personne dedans qui est d'ailleurs un peu bizarre, c'est une jeune, plutôt une vieille femme plutôt à peu près, et en fait l'actrice, on sait pas qui c'est. Les personnages, enfin les réalisateurs n'ont jamais retrouvé cette personne pour lui faire signer une décharge comme quoi droit à l'image, droit à tout ça. Ils l'ont jamais retrouvé, ils ont aucune trace d'elle et personne l'a jamais retrouvé. Personne ne sait comment elle s'appelle.
Elle s'appelle la sorcière de Blair.
Ouais, c'est peut-être la sorcière de Blair.
Il y en a qui disent justement que c'est peut-être la sorcière dans ce film qu'on voit.
Ouais, possible.
Enfin bref, de toute façon, ouais, on va passer.
Ça fait partie du mythe.
En tout cas, il y a un nombre incroyable d'anecdotes sur ce film, parce que même les acteurs savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient. C'est leur vrai nom, les personnages, c'est le nom des vrais acteurs. Ils n'avaient pas de texte. Les scènes où on voit la tante être secouée, les petits galets, c'était le réalisateur et l'équipe du tournage qui les mettaient. Enfin, il y a tout un trivia là-dessus.
Et ça, c'était pas prévu, ça.
Et même la mère de l'actrice Heather Donahue, là, elle a reçu des cartes de condoléances parce que les gens croyaient que sa fille était vraiment disparue ou morte.
Ah ouais.
Et c'est... il me semble qu'ils ont fait croire pendant toute la promotion qu'ils avaient vraiment disparu. Enfin, les gens sont allés au ciné en se disant, mais qu'est-ce qu'on va voir?
Il y a un truc qui est marrant aussi, c'est sans du coup spoiler pour ceux qui voudraient quand même voir ce film, c'est la scène où la personnage principale va trouver un tissu avec dedans des parties de corps humain.
Ouais.
Il va avoir des dents et c'est des vraies dents. En fait, c'est le réalisateur qui
s'est arraché des dents.
Non, du tout. Il allait chez le dentiste et en fait, son dentiste, il a dit, ouais, je suis en train de préparer un film et tout. Est-ce que tu aurais des dents en rab à me filer? Et il lui a filé des dents.
Ouais.
C'est con, mais je trouve ça marrant, quoi.
Oui, enfin, c'est marrant.
Le fait que voilà, il pousse, on va dire, le réel au plus loin. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas un mauvais film. C'est juste que j'ai pas aimé ce film et que j'ai trouvé hyper frustrant parce que je m'attendais à beaucoup mieux.
C'est ça. Pour moi, il a trois avantages: ne durer qu'une heure et demie, ce qui est déjà pas mal. Apporter quelque chose de plus dans le film d'horreur avec la caméra embarquée, vouloir être très très proche du réel. Et du coup, vouloir être tellement proche du réel que, comme on l'a dit, les effets spéciaux, les choses comme ça sont faites à la main. Et on dirait que c'est un film de... Enfin, sans non plus le dénigrer, mais on dirait que c'est un film de lycéen, quoi.
Fin d'école, ouais.
C'est trois potes qui ont pris une caméra et qui se sont amusés à faire quelque chose de... Bah, c'est très propre, hein. C'est pas non plus mal fait, mais voilà. Enfin, pour moi, c'est un avantage.
Bon, on va parler d'un meilleur film maintenant.
Ouais, un film qui est bien plus travaillé, qui est bien plus moderne. C'est le plus moderne de ce qu'on a. Et avec des effets spéciaux qui font un peu plus réfléchir qu'une tente qui bouge en pleine nuit.
Vous êtes mauvais.
On vous passe la musique.
On vous passe la musique et on arrive tout de suite. Vous êtes toujours sur Ciné 7 et sur RKS. À tout de suite.
C'était le Family Theme que vous pouvez retrouver dans Conjuring. Conjuring qui est sorti en 2013, réalisé par James Wan, et qui, dans les grandes lignes, raconte, il me semble, une des premières affaires des Warren.
C'est ça.
Donc Ed et Lorraine Warren, qui sont des démonologues. Je les regarde en anglais, donc pardon, dites-moi si c'est pas le bon mot.
C'est bien ça.
C'est bien ça.
Et en fait, ils vont porter secours à une famille qui a emménagé dans une grande maison, dans laquelle il se passe toutes sortes de choses paranormales, puisque la maison a été habitée depuis plusieurs siècles et il s'est passé de nombreuses choses dedans. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Pour moi, Conjuring, enfin, j'en avais déjà entendu parler, c'était une des grosses références actuelles du film d'horreur. Il apporte du paranormal, même si pour moi la référence c'est Paranormal Activity, mais il apporte quelque chose de, enfin, pas paranormal, mais du surnaturel, le hanté, le fantôme, là où les films d'avant c'était plus vraiment, enfin, le slasher et tout ça, c'est plus réel.
C'est vrai que par rapport à ce dont on parlait avant, Halloween, bon, Blair Witch non, mais par rapport à Halloween, on passe du mal qui est en fait humanisé, quoi, qui est une personne, à un mal, quelque chose de suprême, de démoniaque.
Qui est presque intouchable. Et pour moi, quasiment tous les films qu'on va voir aujourd'hui apportent quelque chose en plus. Et ce qu'apporte Conjuring, c'est tout l'aspect « je vous fais flipper même jusqu'à chez vous » parce que c'est inspiré de faits réels. Les Warren ont existé, ils ont existé, tout ça.
Ils sont encore en vie,
c'est une vraie histoire.
Non, ils sont morts il n'y a pas longtemps.
Ok.
Mais, et pour moi, c'est toute cette angoisse-là que le film emmène jusqu'à chez vous qu'apporte Conjuring, enfin, même s'il apporte d'autres choses, mais principalement c'est ce qu'il apporte dans le monde du cinéma d'horreur.
Alors moi, du coup, mon avis sur Conjuring, il faut savoir qu'au début, moi je suis pas très fan des films d'horreur de base. J'aime on va dire plus les slashers que les films justement paranormal. Sachant qu'en fait Conjuring, j'avais déjà un peu regardé, on va dire la saga, comment elle se déroulait, donc je savais qu'il y avait du coup les deux Conjuring. Entre temps, il y avait aussi les Annabelle, il y avait la nonne, il y avait la dame en noir, et je savais que par exemple l'Annabelle c'était mal reçu par la critique, c'était un mauvais film, et du coup bah moi comme un con j'ai mis un peu tout dans le même sac, je me suis dit bah Conjuring c'est pareil. Et en fait justement le premier et le deux, donc de Conjuring, les deux sont réalisés par James Wan d'ailleurs, et c'est les seuls qui sont bien dans la saga Conjuring. Moi j'ai vu que le 1 pour le moment, et du coup mon avis c'est que je vais voir le 2 parce que j'ai adoré le 1 justement. Je trouve qu'il y a une tension permanente dans ce film là, même au niveau de la mise en scène, je trouve que c'est hyper inventif. Il a un peu il s'est réapproprié un peu les codes horrifiques. Il a fait des choses qui n'étaient pas forcément faites, comme moi je pense notamment le fait par rapport à Halloween où il y avait une musique qui était permanente. Là il n'y a pas forcément beaucoup de musique. Il va justement avoir plus de la mise en tension avec des objets tout cons, par exemple une bruit d'horloge, donc le tic tac tic tac, un grincement de porte, et en fait c'est des choses qu'on retrouve chez soi, et c'est ça qui fait flipper, parce que justement c'est des choses que quand on est seul chez soi, des fois oui, on a tous un peu eu peur des fois quand on se retrouve seul la nuit dans une grande maison et qu'on entend une horloge ou un grincement de porte, qu'en fait c'était le vent ou j'en sais rien, et du coup ça nous fait un peu flipper, et justement on tombe un peu dans une psychose avec ce film. Moi j'ai beaucoup aimé, il m'a pas fait peur, vraiment j'ai pas sursauté, mais il y a eu des moments, on en parlera après au niveau de la mise en scène, qu'en fait j'ai trouvé super inventif et un peu justement un peu dans le thème de l'horreur qui va super bien, quoi.
Ouais, puisque tu disais, c'est vrai aussi, un moment dans le film il y a une scène comme ça où les Warren sont dans une famille et ils leur disent « Non, mais là, c'est rien, c'est juste le bois qui travaille avec la chaudière et tout ça. » Et là, on s'est tous retrouvés en mode « Oui, oui, non, mais je sais, mais chez moi, ça fait des bruits pareils. Hein, faudrait que vous veniez expertiser
ça. » Là, peut-être que c'était Redder qui voulait dire aux spectateurs « Bon, les gars, calmez-vous. Là, il ne se passe rien ici. Là, on est d'un côté dans la vraie vie et dans le faux, même si c'est une histoire vraie. Ça a été un peu
Oui, romancé.
Voilà, on va dire ça a été regrossi, quoi, pour les besoins du film.
C'est inspiré d'histoire, ouais. Des fois, c'est juste, il y a un Ed Warren qui a existé une fois dans la vie et il a lu un livre.
Non, apparemment, il y a eu des expériences comme ça. Il y a eu des expériences apparemment qui ont été faites.
On ne sait même pas. Est-ce qu'ils ont été consultants sur le film ? Est-ce qu'ils les ont aidés à écrire le scénario ?
Alors là, je n'ai pas cherché.
Ouais, là, je...
Ce serait intéressant de
savoir. Là, je sèche.
Mais ouais, des très beaux plans. Moi, je pense notamment surtout à la scène de la maison, en fait, la découverte de la maison. Donc, quand je me rappelle plus du nom de la famille, si vous l'avez au
les
cas où.
Les Perron. Les Perron,
c'est ça. Ouais.
Bah, je dirais les Perron, qui vont découvrir leur maison. Il va avoir en fait un plan séquence. Donc, moi, j'aime beaucoup les plans séquences. Ça nous introduit un peu dans la maison. On a l'impression d'être avec eux. Et on se demande, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est du coup analyser un peu les pièces. Je me dis, est-ce qu'on va pas voir un petit indice pour la suite du film, ou quelque chose qui est justement qui est pas habituel dans une maison. Donc j'ai beaucoup aimé la scène du plan séquence.
Il y a quand même un gros indice, hein, quand on commence à trouver un trou dans le placard sous l'escalier, c'est que globalement ça sent pas hyper bon.
Les horloges qui s'arrêtent à... Alors je sais plus si c'est 15h07 ou 3h07 du matin.
3h07, ouais, du matin.
3h07 du matin. Donc qui signifie, enfin c'est du coup 3h07, ça va pas être là pour rien. Ça va être le fait que il y a une entité qui est morte en fait à 3h07 du matin et qui va venir hanter cette maison.
Et ce qui est pas mal aussi dans ce film, c'est que, comme tu l'as dit, il y a une tension permanente. C'est un film qui va, si vous voulez, crescendo, où on suit la petite famille américaine qui vit sa nouvelle vie et qui s'installe comme il faut et qui va de plus en plus rentrer dans la catastrophe, dans l'horreur. Et tout le film va se dérouler comme une enquête policière. On constate des faits avec la famille, et l'enquête va nous les élucider jusqu'à la fin. Quoi.
Bah en fait, ça pourrait presque aussi être un peu une enquête, on va pas dire policière, mais ça reprend un peu les codes. Hein.
Ouais. Ça reprend un peu les codes du polar, ouais, c'est vrai.
C'est quand on voit ça fait comme ça, c'est pas trop mal. Quoi.
En tout cas, le film est réalisé par James Wan, qui est un pro de l'horreur, donc c'est celui qui a réalisé notamment les Insidious et les Saw, je sais pas si vous saviez.
Ouais. Alors le premier Saw, après je crois pas que c'est lui qui a fait les autres.
Si, il me semble quasiment tous. En tout cas, j'ai regardé
le premier, c'est le meilleur.
Le meilleur, c'est Saucisse.
Non.
Il fallait faire.
Non, mais le premier saut avec.
En tout cas, un pro de l'horreur qui a des codes qui lui sont propres, qui sait, comme tu as dit, réapproprier tous les codes. Et il y a des scènes super intéressantes. Par exemple, la scène où la mère fait la sieste. Je pense que tu vas en parler après. Et,
je te laisse la parole, vas-y.
Elle est en train de dormir. Et déjà, on voit depuis un moment, elle commençait à avoir des bleus qui se formaient sur son corps. Elle se réveillait le matin avec des énormes bleus. Elle disait, bon, une carence en fer. Ouais. Il y a une scène là du coup où elle fait la sieste et où on voit des traces de doigts apparaître sur son avant-bras parce qu'il y a une entité qui l'oppresse, quoi, qui essaye de lui faire du mal. Et ils le disent eux-mêmes, souvent les entités s'attaquent aux personnes les plus vulnérables psychologiquement. Et à ce moment-là, il y a un shift de la caméra. En fait, la caméra bascule et on se retrouve au-dessus d'elle avec l'entité. Mmh. Je vais laisser Marvin en parler mieux que moi parce que je vous avoue, à ce moment-là, j'ai fermé les yeux.
Non, vas-y, j'ai pas grand chose justement
j'étais
à dire.
J'étais juste que la caméra a tourné, ensuite j'ai fermé les yeux.
Non, mais en fait, après, on va spoiler. Ça va être con parce que du coup, on va spoiler. Si on spoil cette mise en scène-là, on spoil un peu du coup la suite du film. Donc, non, juste noter que c'est une très belle mise en scène et que, ouais, du coup, comme on a dit, le retournement de caméra. Donc, après, on va se mettre du coup au niveau de la tête de la mère et qu'on va voir en fait l'entité au-dessus d'elle, ça fait un peu flipper et c'est joli. Non, moi je voulais plus parler, c'était de la scène de l'allumette. Donc dans un premier temps, du coup, on va voir un personnage qui va découvrir une cave en dessous de leur maison, une cave inhabitée, on va dire cachée plutôt. Et en fait, il n'y a pas de lampe, donc il va venir avec une petite allumette. Et il va en fait à chaque fois gratter une allumette et dès que ça finit, d'un coup on se retrouve dans le noir pendant quelques secondes. Mais justement, on se demande si quand il va ramener l'allumette, il va pas avoir d'un coup un fantôme ou quelque chose. Et en fait, il se passe rien. Ouais. Et ça, c'est un peu comme le projet de Blair Witch, mais c'est mieux fait, je trouve.
C'est des choses où on s'attend à voir quelque chose et on ne l'a pas. Et justement, on est surpris presque de rien voir.
Mais après, la femme, plus tard dans le film, elle va justement aussi voir ce grenier, enfin cette cave, pardon. Et d'un coup, la lumière s'éteint. Et là, alors je sais pas si du coup on le dit, parce que moi c'est vraiment...
Tu me fais le bruitage.
Non, mais c'est la scène qui m'a fait le plus, vraiment...
Non,
je parle pas de ça. Je pense que si je fais comme ça, Ken, avec les mains, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
C'est d'un coup, oui. La lumière s'éteint, il y a un plan sur la femme, avec une lumière devant elle, il y a un noir derrière elle, et d'un coup t'entends... Comme ça, et tu vois des mains...
Vous comprendrez dans le contexte.
Voilà, et t'entends le cri de la dame, et...
L'écran bascule au noir, alors là, on sait pas ce qui se passe, on est perdu.
Non, en vrai, pour conclure sur ce film, moi, j'ai vraiment kiffé ce film. Je pense que c'est un des meilleurs films actuels d'horreur. Vraiment, il a réinventé le genre, comme a dit James Wan. C'est... j'ai kiffé, moi.
Moi, j'aime beaucoup ce film, et en plus, j'ai eu ma période, il y a... 6-7 ans, ça commence à dater quand j'étais au collège, lycée, où j'adorais les films d'horreur et où j'allais voir absolument tous les films d'horreur qui sortaient au cinéma. Alors, moi, celui que j'aime beaucoup, c'est Sinister. Donc, peut-être que vous l'avez vu, peut-être non, mais je trouve que c'est vraiment un film. Enfin, moi, c'est celui qui m'a fait le plus peur et qui est resté avec moi encore des années plus tard. Des fois, je me dis, je suis quand même pas sûre qu'au bout du couloir, il soit pas là à m'attendre, l'autre. Et en fait, j'adore les films d'horreur et il s'avère que les codes sont souvent les mêmes. Au début, il se passe rien, il se passe un petit truc, puis il se passe rien, puis un petit truc. Et du coup, j'ai du mal à être surprise dans les films d'horreur modernes. Et celui-là m'a vraiment fait peur, notamment une scène, on va pas en dire plus, où Vera Farmiga, donc Lorraine Warren, s'approche d'un arbre. on la voit de face et bon, l'arbre a quelques surprises pour elle.
Mmh. Exactement.
Est-ce et donc, qu'on enchaîne avec...
Ouais, bien sûr.
Je voudrais bien parler d'un autre slasher qui est totalement différent de la Nuit des Masques. Donc, ça va être Scream. Donc, premier du nom, sorti en 96, réalisé par Wes Craven. Est-ce que, Kélan, tu as une petite musique à nous mettre sous le coude?
Et ce coup-ci, j'ai la bonne musique.
Bon, j'espère. Hein.
C'est un slasher, j'ai la bonne.
Dommage.
Non, dommage.
On dansera sur l'exorciste.
On dansera sur l'exorciste, si vous voulez. C'est peut-être plus dur à danser que sur Youth of America de Burst Brain. A tout de suite sur RKS et sur Ciné7.
Et on est de retour sur RKS, donc du coup, on va vous parler de Scream. Donc Scream, qui était un slasher movie, qui a été, on va dire, un peu le renouveau des slasher movies. Donc après, on va dire, des années 80, 90, avec toujours à peu près les mêmes codes horrifiques, Wes Craven va nous sortir un film assez différent, qui va reprendre justement les codes horrifiques, mais qui va l'introduire dans son scénario d'une façon très intelligente. Donc, on va essayer de parler de ce film, du coup, à deux, parce que malheureusement, Keke n'a pas vu ce film, donc on va s'y coller à deux avec Jad. On a beaucoup aimé ce film, donc on va en parler directement. Donc Scream, ça va parler de quoi? Donc ça va être l'histoire de Ghostface. Donc Ghostface qui est un tueur au masque de fantôme. Le masque de fantôme qui est directement inspiré d'un tableau célèbre qui s'appelle Le Cri, je crois bien, je crois que c'est ça. Qui justement reprend un peu la même position au niveau de la bouche. Donc, le Ghostface qui va en fait hanter une petite ville, il va avoir plusieurs meurtres sur principalement des jeunes ados, principalement filles. Donc, le speech du film, c'est qui est le tueur, parce que là, en fait, personne ne sait qui peut être le tueur. Contrairement à Halloween, où du coup, on sait que c'est Michael Myers, Vendredi 13, on sait que c'est Jason. Là, on ne sait pas qui c'est. Et justement, ça va être la surprise. Donc, ça va être un peu comme une enquête aussi. On va découvrir en même temps que les personnages principaux qui peut être la victime. Donc, du coup, on va avoir une première scène qui est justement l'une, je pense, des meilleures scènes que j'ai pu voir de ma vie sur les films. Parce qu'en fait, ça va totalement nous hypnotiser, ce film-là. Il va commencer directement avec un bruit de téléphone. On va avoir une personne donc, interprétée par Drew Barrymore. Donc, Drew Barrymore, c'est celle qui a joué la petite fille dans E.T. Donc, à ce moment-là, c'était quand même une sacrée actrice. Et du coup, donc, le téléphone sonne. L'assassin lui dit que c'est un mauvais numéro. Puis, ça raccroche. Puis, il commence à se montrer un peu,
insistant.
Insistant, voilà. Cherchez le mot, merci Jade. Assez insistant. Ils vont jouer un petit peu ensemble. Elle va dire qu'elle va regarder un petit film d'horreur tranquillement. Et il va lui dire « Ah, tu aimes les films d'horreur ?» Donc il va commencer à être un peu à se demander « Ah tiens, je suis tombé sur une bonne victime là. » Et on apprend qu'en fait, la personnage, donc je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, je vais dire Drew Barrymore directement. Donc du coup, Drew Barrymore, on apprend qu'elle aime beaucoup les films d'horreur, qu'elle regarde beaucoup de films d'horreur et qu'elle connaît tous les genres cinématographiques. Sauf que le souci, c'est que le tueur les connaît mieux qu'elle. Il connaît mieux ses classiques. Elle était armée de sa culture cinématographique, le tueur va la désarmer directement. On va apprendre que, par exemple, c'est des choses toutes simples, mais par exemple, son petit ami qui devait normalement venir à son secours, comme dans beaucoup de films d'horreur, son petit ami est déjà ligoté, il est déjà là. Le tueur a tout prévu, il a déjà condamné toutes les issues, il a déjà coupé le téléphone, il a absolument tout prévu dans ce film-là. Et ce qui est du coup assez choquant pour une première scène d'intro, c'est que Drew Barrymore meurt directement. Donc ce n'est pas
c'est pas un spoil.
Ce n'est pas un spoil parce que c'est directement, en fait, ça arrive au bout de 5 minutes dans le film. Mais justement, ça va nous permettre de comprendre que personne ne va être épargné dans ce film parce qu'à l'époque, peut-être moins aujourd'hui, mais Drew Barrymore, c'était une actrice qui était super connue et qui était super appréciée du public. Et que la voir mourir aussi vite dans un film, c'est assez percutant, c'est assez choquant.
Mais ça crée un sentiment d'insécurité parce que le spectateur se dit si elle meurt alors que c'est la star et qu'il me semble que c'est elle sur l'affiche en plus.
Elle est sur l'affiche parce que justement, puisque c'est, on va dire, ça a amené un peu du monde du coup, le fait qu'elle soit connue, ça a amené un peu des téléspectateurs.
Donc si la tête d'affiche meurt, qui est à l'abri quoi.
Voilà, c'est ça. On se demande qui va prendre le relais et c'est une jeune fille du nom de Sydney, qui ne connaît pas les films d'horreur, qui ne regarde pas les films d'horreur. Et c'est justement ce qui va lui permettre, elle, d'improviser, de ruser par rapport à Ghostface, c'est le fait qu'elle, en fait, puisqu'elle ne connaît pas, elle est totalement imprévisible. Elle ne va pas faire comme les héroïnes dans les films d'horreur. Là, elle va être totalement différente. D'ailleurs, Scream, c'est un slasher, mais c'est aussi un terme, donc le Final Girl. Donc le Final Girl qu'on peut retrouver dans pas mal de films d'horreur. Donc typiquement, Halloween, c'est en fait une jeune femme qui, en fait, on ne pense pas qu'elle va devenir aussi forte. On se dit qu'elle est un peu légère comme personnage principal, et là justement, comme un peu comme Alien par exemple aussi, avec Ellen Ripley.
Ouais, elle a rien de particulier, en fait elle se révèle pendant le film, et petit à petit elle passe tous les obstacles jusqu'à finalement être la dernière personne en vie.
Voilà, comme du coup Sydney dans ce film, et du coup ce qui est marrant avec ce film aussi, c'est que Wes Craven va faire beaucoup, mais alors beaucoup de références aux films d'horreur, notamment Psychose, notamment aussi Freddy Krueger, donc du coup c'est lui qui a réalisé directement Les Griffes de la Nuit, donc c'est marrant parce qu'il se fait des autoréférences. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce film, à un moment, il va dire que le premier Freddy Krueger est cool et qu'en fait les suites sont nulles. Et c'est totalement vrai en plus d'un côté. Et il l'avoue par lui-même puisque c'est lui qui a fait
directement. Il est lucide au moins.
Il est lucide, non, mais en fait, on va dire, il a pris un peu de recul sur ses films. Il a dû voir que ses films étaient un peu, on va dire, mauvais. Il a aussi fait, je crois, La Colline à des yeux. Je crois que c'est lui. Ouais,
en tout cas, des films mauvais, mais celui-là, il était très bon.
De toute façon, c'est le maître de l'horreur. Et il y a aussi une grosse référence à Halloween, que d'ailleurs, en fait, il y a une double scène. Donc, on va avoir un film dans un film. Inception. Non, mais dans le sens où, en fait, il va avoir une scène où il va avoir le dernier tiers du film La Nuit des Masques. Et il va se passer, en fait, la même chose du côté de...
Ouais, il y a un parallèle qui se crée entre les deux films.
Je crois qu'il y a aussi Carrie au bal du diable. Je crois qu'il y a une référence par rapport au centre port. Quelque chose comme ça, je crois bien.
Et il fait référence notamment à Halloween, puisqu'il y a un moment dans Halloween où la babysitter, où Laurie Strode, ça commence à se mélanger dans ma tête.
Strode, c'est ça,
Elle prend les deux enfants qu'elle garde, elle leur dit allez chez les McKenzie, appelez la police, et il se passe la même chose dans Scream, où les parents de Casey, je crois que ça s'appelle comme ça, rentrent à la maison, et où le mari dit à sa femme va chez les McKenzie, traverse la rue et va appeler la police. En tout cas, c'est un film qui est très méta, comme on dit souvent. C'est-à-dire que c'est un film qui est à la fois un documentaire, donc qui explique les codes du genre, qui explique bah, tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans un film d'horreur, et à la fois bah, un film d'horreur qui reprend les codes et qui, en fait, se sert de la connaissance du public pour faire semblant de nous emmener quelque part et au dernier moment nous dire bah, « Vous pensiez que vous étiez plus intelligent que le tueur ?» Et en fait, non.
C'est exactement ça. C'est en fait, avec ce film-là, il va nous montrer en fait tout l'héritage que Scream a pu posséder, donc, surtout que Ghostface a pu posséder. Donc, le tueur va en fait connaître tous ses classiques. Il a regardé tous les films d'horreur. Et c'est un peu, on va dire, une critique vis-à-vis des films qu'en fait, qui avaient du mal à se renouveler à cette époque-là. Les slashers, c'était du vu et du revu. Ça commençait un peu à s'enliser, ça devenait un peu mou, ça devenait un peu de la série B. Et là, bah, il nous sort en fait un film totalement, pour moi, différent. Certes, c'est un slasher, mais c'est un slasher qui va se réinventer. Et il va un peu nous annoncer que la peur est de retour avec ce Scream-là. Et que derrière, moi, je trouve que les trois autres Screams sont très bons aussi, même s'ils sont un peu en dessous du premier. Contrairement justement aux Griffes de la Nuit, contrairement à Vendredi 13, contrairement à Halloween, il nous sort quand même une saga assez, on va dire, pleine et avec quand même de la cohérence tout le long. Et justement, il arrive toujours à se réinventer, surtout dans le 4, qui est malheureusement son dernier film, qui est sorti en 2011. Et je crois que Wes Craven est mort en 2013, je crois bien.
Paix à son âme.
Paix à son âme.
Et en tout cas, il y a quelque chose qui se voit souvent dans les films d'horreur, c'est des problèmes de rythme. En fait, parce qu'il y a souvent des films d'horreur qui commencent un peu lent et qui après s'enlisent, ou alors... l'inverse des films d'horreur qui commencent très fort et après, bah, voilà, ça perd un peu en haleine. Et ce film-là commence par une scène, comme disait Marvin, qui est très intense, où il se passe énormément de choses, où en fait, on est dans l'attente de voir ce qui va se passer. Et il perd jamais ce rythme. En fait, il y a des moments qui sont un peu plus calmes, mais dans l'ensemble, le film garde un super bon rythme, super bonne dynamique. Et il y a une scène qui se passe dans une maison qui dure 42 minutes, où il se passe, mais des rebondissements chaque seconde. En fait, vous détournez les yeux de l'écran pendant une minute, vous ratez plein d'éléments hyper importants pour l'histoire.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est dans le sens où, ouais, avec le fait qu'il y a, pas mal de clins d'œil aux anciens films et tout, on va se dire, ouais, ça va se passer comme ça, alors que non, pas du tout, ça se passe pas comme ça. Donc j'espère que du coup, Kylian a pu quand même profiter de notre petite analyse de film et potentiellement a pu apprécier, on va dire, notre critique et peut-être le voir, même si du coup, ça serait pas dans le cadre de Ciné 7, ça serait pas par rapport à Halloween. Mais c'est un super film que j'aimerais bien que tout le monde découvre parce que pour moi c'est un super film d'horreur, peut-être pas le meilleur, encore une fois on aura toujours les Shining en premier.
De toute façon c'est très subjectif, les goûts en matière d'horreur, on va le voir pour le film suivant. Mais...
Ouais, oui, non, mais oui, tout à fait, bah, de toute façon le prochain film on va en parler, on a le temps d'en parler, ouais, tranquille. Donc est-ce que Kian, ça t'a plu un peu notre petite analyse?
Et tout à fait, de toute façon Scream c'est un film qui... comment ça s'appelle, qui est une référence hein, dans le monde de l'horreur, c'est un film dont j'avais envie de voir. Mais là, oui, j'ai envie, vous me donnez encore plus envie de le voir. Je le regarderai peut-être même tout à l'heure.
On n'a pas trop dit ?
Non. Vous avez bien lancé ce qu'il fallait dire, je pense. Bah, après, je le verrai quand j'aurai vu le film, hein, dans tous les cas. Et du coup, oui, on va pouvoir enchaîner avec un nouveau film qui n'a pas fait l'unanimité dans l'équipe. C'est un autre grand classique du cinéma d'horreur. Lequel est-il, Jade ?
C'est L'Exorciste. Je ne sais même plus le réalisateur.
J'ai pas le nom, désolé. Mais tout ce qu'on peut retenir de ce film-là, c'est qu'il a un super thème, super horrifique, et que tout le monde va reconnaître. Là, c'est sûr.
Tout le monde l'a entendu.
Vous allez flipper. Allez, c'est parti. Thank you.
On se retrouve après ce thème horrifique qui nous a fait bien peur. C'est le thème de l'exorciste. C'est un film qui est, enfin, pour moi, j'ai trouvé génial. Le but de l'histoire, c'est un des seuls films où il y a une histoire avec Conjuring, je trouve, qui est ficelée avec des personnages avec lesquels on peut s'identifier, s'amuser. Enfin, s'amuser, c'est un grand mot. Mais pour moi, ouais, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui date de 73. Et en fait, l'histoire, c'est une petite fille à qui va arriver quelques péripéties. On a l'impression que c'est des maladies, d'abord des dégénérescences cérébrales. Et en fait, il va s'avérer que c'est bien pire que ça, puisque c'est une entité surnaturelle, un démon qui va se mettre à la posséder. C'est un film qui a un peu vieilli quand même quand on le regarde maintenant, mais c'est quelque chose, c'est un grand grand classique du cinéma d'horreur. Il a apporté encore beaucoup de choses au cinéma d'horreur, et puis enfin tout le monde doit le voir, tout le monde l'a déjà vu une fois. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça super intéressant.
Alors, c'est un film qui était très très novateur quand il est sorti, notamment la scène où Regan, donc la petite fille, a sa tête qui tourne à 360 degrés. En fait, c'est une scène que tout le monde a déjà vue, même sans avoir vu le film. Et en fait, le souci, ce qui nous fait dire que le film a mal vieilli, c'est qu'aujourd'hui, les films d'horreur peuvent plus se contenter de scènes un peu choc comme ça, de scènes où il arrive des choses aux personnages. Il ne faut pas seulement des scènes comme ça, il faut des scènes de tension, il faut qu'il y ait tout un imaginaire, en fait, des choses qui se tissent. Et le spectateur d'aujourd'hui s'attend à plus que juste un peu de vomi, juste un peu de sang, quoi. Et c'est ce qui nous fait dire qu'il a mal vieilli. Après, moi, c'est un film que j'avais vu il y a quelques années. J'étais plus jeune, j'avais moins vu de films d'horreur. Je m'étais dit, il est sympa. Je l'ai revu récemment et honnêtement, il m'a un peu déçue. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, ce film, c'est un emblème de la culture du film d'horreur, que nos parents l'ont vu, que nos grands-parents peut-être l'ont vu. Et en fait, on en entend parler depuis tellement longtemps. Enfin, moi, mes parents m'en avaient parlé en disant c'est le film d'horreur le plus effrayant que j'ai vu de ma vie. Et en fait, on s'attend tellement à vivre ça que finalement l'effet est moindre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait comme effet.
Moi, en fait, ce film-là, le souci, c'est que j'attendais, comme j'ai dit à Jade là, avant la mission, j'attendais beaucoup de ce film-là parce que c'est une référence dans le film d'horreur. Souvent, quand on cherche pour Halloween les meilleurs films d'horreur, ceux qui font le plus flipper, il revient souvent. Donc moi, je m'attendais justement à un super film. J'ai été un peu déçu, déjà juste l'intro. C'est une scène qui se passe en Irak, ça dure 10 minutes. C'est hyper long, 10 minutes quand même pour ça. J'avais plus l'impression d'être dans Indiana Jones que dans L'Exorciste. C'était pas ouf au niveau de l'intro. Et même, ça met quand même du temps à se mettre en place. Il doit avoir quoi, aller peut-être 15 minutes, vraiment un peu d'horreur. De toute façon, c'est la scène qui se passe dans la chambre, on va dire c'est la scène la plus connue avec le père Lancaster là, qui est interprété par Max von Sydow, qui est décédé il y a peu, je crois en 2000, il est décédé en mars 2020. Et par contre, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la performance de Linda Blair, donc qui joue en fait la possédée. Faut savoir que L'Exorciste s'est inspiré d'une histoire vraie de base. Il y a vraiment une personne qui a été possédée par soi-disant un démon. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a d'abord eu un film en fait, enfin d'abord l'histoire vraie, puis le livre, et ensuite le film, qui est du coup inspiré du livre, donc ça fait un beau micmac. Mais du coup, on a Linda Blair qui était très jeune lors de ce tournage-là, et pour que le réalisateur, donc William Friedkin, il valide les scènes, il lui disait que si à chaque fois elle faisait une bonne scène, elle avait droit à des bonbons. Donc c'était marrant, parce que du coup, bah, déjà pour son âge, là, ça dédramatisait un peu la chose, dans le sens où bah, elle était consciente qu'elle jouait dans un film d'horreur, parce que forcément, vu comment elle était maquillée, bah, elle pouvait se douter que c'était pas un film joyeux, ça allait pas être Le Pays des Bisounours. Et pour moi, elle sort une très belle performance, et aussi on peut saluer, je me rappelle plus le nom de la doubleuse, donc que ce soit en français ou en version originale, c'est du coup une personne qui va après faire la voix démoniaque de la personne qui est possédée, et qui l'a aussi, pareil, qui la double très bien, et qui va apporter un peu de profondeur au personnage, et un peu plus de, comment dire, de contraste avec justement avec la petite voix toute mignonne de l'actrice Linda Blair.
Qui d'ailleurs s'est cassé le dos, je ne sais pas si vous savez, la scène où elle est sur le lit, en fait, ils avaient mis le lit dans un système mécanique, et le lit, en fait, a tellement bougé qu'au bout d'un certain nombre de prises, elle s'est vraiment cassé le dos, elle a fini à l'hôpital. Quoi.
Cette scène-là, elle m'a fait trop rire, moi, perso. Genre, quand le lit, il bouge dans tous les sens, genre, j'étais mort de rire. En fait, le souci, c'est que j'ai vu Scary Movie avant de voir L'Exorciste. Grosse erreur, parce que
moi aussi, ça m'a fait exactement la même chose. Enfin, on a tous les références de Scary Movie et c'est franchement, ça dénote parce que on passe après, on regarde L'Exorciste en rigolant quoi. Et ça c'est
Alors moi, je l'avais pas vu, donc j'ai pas eu ce problème là. Mais j'ai vu la scène après, on me l'a montré et effectivement, je pense que si j'avais vu en premier, mais j'aurais été mort de rire pendant toute la scène. Après, c'est un film aussi. En grandissant, en fait, on se rend compte que c'est pas seulement du cinéma d'horreur. Il y a des thèmes très adultes qui sont abordés. Par exemple, le prêtre, il a un énorme sentiment de culpabilité de pas avoir réussi à sauver sa mère, de pas avoir été assez présent pour elle. Ensuite, l'autre, le père
Lancaster.
C'est le père Carras ou l'autre.
Lancaster.
Lui, il a un sentiment de culpabilité de pas réussir en fait comme la mère à aider la petite fille. Et en fait, ces thèmes-là participent, je pense, à ce que Kellyanne a appelé un peu. L'origine de l'histoire, quoi, le background, et qui fait qu'on s'attache peut-être plus au personnage parce qu'il y a toute cette psychologie qui est développée.
Et on peut noter aussi que c'est le premier film d'horreur qui reçoit 2 Oscars, donc bien avant Le Silence des Agneaux, donc pour les Oscars de 1974. Donc il a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté, donc du coup adapté, comme je vous ai dit, du livre, et l'Oscar du meilleur mixage son. Donc moi perso, le mixage son, il m'a pas. Après, je suis pas trop les années 73, c'est pas forcément, je pense, une année qui m'a marqué au niveau des films, mais on va dire c'est pas le film qui aurait peut-être mérité le mixage son. Enfin moi, ça, je sais pas vous, est-ce que ça vous a interpellé le son dans.
Pas spécialement. Après, peut-être que c'était la première fois qu'on avait du cinéma d'horreur qui était vraiment efficace au niveau de la technique, quoi. Donc peut-être qu'ils ont voulu saluer ça et encourager les réalisateurs à s'essayer à ce genre.
Moi, le souci de toute façon avec ce film, c'est que clairement, il a mal vieilli. Ça, on peut pas. Il a vraiment mal vieilli. Après, le souci, c'est que maintenant, nous, on est plus habitués à des films tels Conjuring, par exemple, ou Insidious, ou des choses comme ça, qui est beaucoup plus horrifique et qui fait. Enfin, maintenant, le spectateur a besoin vraiment d'avoir peur. Et le souci avec L'Exorciste, c'est que pour les personnes, les ados qui l'ont découvert à l'époque, c'était vraiment, je pense, à cette époque-là. Enfin, j'aurais bien voulu voir justement dans ce contexte-là. Je pense que c'était vraiment pas mal. Mais là, malheureusement pour nous, c'était pas une réussite totale. C'est pas un mauvais film, loin de là. Vraiment, c'est un super film. Je pense que tout le monde peut apprécier. Mais moi, vraiment, j'ai mis du temps à le regarder parce que je pensais que j'allais avoir plus peur que ça. Et malheureusement, j'ai pas eu trop peur, quoi.
Oui, et puis comme tu l'as dit, c'est pas non plus les codes de l'horreur actuelle, en fait. C'est pas. C'est aussi une entité surnaturelle, mais c'est pas la même chose. Il n'y a pas de screamer. On n'est pas surpris de voir ce qui se passe. Enfin, on est surpris d'entendre ce que dit le démon, mais. Ça nous fait pas sursauter, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'on pense qu'il a quand même un peu vieilli. Après, ça reste quand même une grosse, grosse référence. Et je pense que Marvin l'aime aussi beaucoup parce que l'affiche, c'est un homme en contre-jour après un lampadaire. Et c'est une très belle affiche. Et Marvin a beaucoup ce genre de photos, on le sait.
Moi, juste pour finir sur ce film-là, je voudrais juste parler d'une. On va dire pas d'une mise en scène, mais d'un procédé qui est super. Donc du coup le démon est en fait inspiré du dieu Pazuzu, donc qui est en fait le démon, on va dire, un peu du vent, un peu de la météo, on va dire, je crois que c'est dans tout ce qui est Inca. Et il y a la scène du coup où en fait les fenêtres sont toujours ouvertes, en fait elle va ouvrir ses fenêtres et il fait super froid. Donc faut savoir déjà cette scène là a été tournée dans une chambre froide, donc c'est pour ça qu'il y a autant de comment on appelle ça, de fumée,
enfin
de buée, au niveau de la bouche des acteurs. Et en fait on sait très bien que quand une personne meurt, le cadavre d'une personne est très froide. Donc, ça montre bien en fait que le corps est en train de se décomposer. Comme Linda Blair dans ce film-là, tout doucement, on va voir qu'elle va commencer à avoir des marques sur les joues, qu'elle va commencer à avoir les dents jaunes, en fait, totalement se décomposer. Et je trouve que c'est bien justement d'avoir utilisé le fait de la chambre froide, parce que je pense que les acteurs devaient bien se cailler le cul sur le tournage de ce film-là, je pense. Hein. Bon, là, je pense qu'on a tout dit à peu près sur L'Exorciste.
Oui, en tout cas, c'est un film que on doit voir, je pense, au moins une fois dans sa vie. Il faut avoir vu L'Exorciste.
C'est une référence.
Rien que pour la scène de l'escalier, vous verrez plus l'escalier de la même façon. Il faut voir L'Exorciste. Après, que vous l'aimiez ou non, c'est à votre convenance. Et à mon avis, ça dépend de votre histoire avec le cinéma d'horreur. Mais ça reste un film iconique. Et comme la plupart des films dont on a parlé aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour.
On a fait le tour. Et du coup, la semaine prochaine, on va parler de quoi, Jeanne ?
Eh bien, on va rester un peu dans pas le cinéma horrifique, mais dans les films qui font un peu frissonner, en s'attaquant à Tim Burton.
Ouais, toujours un peu le même thème, parce qu'on sera le lendemain d'Halloween, donc on aura déjà eu peur, mais il faudra quand même rester un peu dans tout ce thème-là, dans toute cette mythologie. Donc on va attaquer sur une partie de la filmographie de Tim Burton,
Et puis voilà, on va se retrouver la semaine prochaine, toujours à la même heure, 19h, le dimanche soir. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la playlist de l'émission sur la page YouTube de RKS.fr, radio-RKS.fr. Et n'hésitez pas à la retrouver du coup pour préparer votre soirée d'Halloween. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de l'émission et des émissions précédentes sur le site internet radio-RKS.fr ou sur l'application. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À bientôt, à la semaine prochaine, les enfants.
À la semaine prochaine.
Salut tout le monde.